CFM, en Tarn-et-Garonne, le MAG.
Et le MAG du Tarn-et-Garonne aujourd'hui, qui laisse la place à l'émission Politiquement Votre avec Kader Youb. Bonjour Kader.
Bonjour Rémi, bonjour à tous.
Aujourd'hui ton invité ?
Romain Lopez, donc le maire de Moissac, conseiller départemental et aussi vice-président de la communauté de communes Terre de Confluence. Bonjour Romain Lopez, bienvenue à vous sur CFM Radio.
Bonjour Kader et merci pour votre invitation.
Avec vous Romain Lopez, nous allons passer une demi-heure. Nous allons bien sûr aborder les sujets locaux, hein, l'hôpital de Moissac qui fait couler beaucoup d'encre en ce moment et beaucoup de peur. En tout cas, votre mandat de maire, les premiers pas, finalement, après un an de mandature, quel bilan faites-vous de ce début de mandature? Et enfin, nous aborderons dans une seconde partie des questions liées à la politique nationale, notamment la présidentielle et législative. Vous nous direz si, peut-être, vous serez partant pour ces élections législatives. Donc, Romain Lopez, comme de nombreux élus, de tous bords, de syndicalistes, de citoyens, vous avez fustigé la décision prise de fermer le service des urgences du centre hospitalier de Moissac. Vous êtes président du conseil de surveillance du centre intercommunal hospitalier. Quelle est la situation exacte?
Et si j'avais été réellement informé de tout, de manière transparente, en amont de cette fermeture, ce qui n'a pas été le cas, ni par le directeur de l'hôpital, ni par le directeur départemental de la chasse régionale de santé, alors que je suis le président du conseil de surveillance, il a fallu que j'aille moi-même à la pêche aux informations. Et comme l'ensemble des élus des syndicats et du personnel soignant, j'ai été mis au pied du mur il y a quelques jours lors d'une annonce de la direction départementale de santé en présence du sous-préfet et du directeur de l'hôpital, comme quoi les urgences allaient fermer à partir du 1er décembre à 20h, donc les urgences
de 20h à 8h, c'est ça ?
De 20h à 8h, les urgences de nuit. Effectivement, on fait face à un véritable scandale sanitaire. Tout le monde se rejoint là-dessus. Toutes les sensibilités politiques, tous les élus, tous les syndicats, l'ensemble de la population, puisque les urgences couvrent un bassin de santé de 85 000 habitants, et surtout, elles sont plus que nécessaires dans un bassin rural où nous avons des communes isolées qui sont à plus de 30 minutes des urgences de Montauban. Nous avons une population précaire, une population pauvre, où il y a un taux, notamment de maladies cardiovasculaires supérieures à la moyenne, et puis une population âgée. Ne serait-ce que dans ma commune, on a 35% de retraités. Et d'ailleurs, il y a 17% de la gériatrie qui passe par les urgences. Et au-delà de la seule problématique des urgences, il y a la pérennité de l'hôpital Cassel-Sarrazin-Moissac qui se pose. On a un hôpital qui est déficitaire à hauteur d'€1,7 million. Je parle uniquement du budget hôpital, pas de l'EHPAD et des soins longue durée. €1,7 million. Automatiquement, la restriction des ouvertures des urgences va aggraver ce déficit, d'autant que derrière les urgences, il y a aussi le service médecine et le service chirurgie. Il faut savoir que 56% des admissions sur ces services proviennent des urgences, sans parler du laboratoire, sans parler de la radiologie. Donc automatiquement, le chiffre d'affaires, excusez-moi d'employer ces termes, mais de l'hôpital, va diminuer. Et donc, la question est légitime de se poser, de se projeter sur la pérennité de cette structure hospitalière, parce qu'on sait très bien qu'il va y avoir l'hôpital du Grand Montauban qui, dans quelques années, devrait sortir de terre, et l'État faisant sans cesse des économies sur la santé des Français, très probablement se dira, regardez, vous avez un hôpital de proximité qui est déficitaire, vous avez un grand hôpital aujourd'hui, regroupons tout sur le grand hôpital et fermons l'hôpital Cassel-Sarrazin-Moissac. Donc là, il y a un véritable risque derrière la question des urgences, la pérennité de la structure.
Bon, vous l'avez rappelé, tout le monde s'accorde à dire que c'est une catastrophe sanitaire, si je puis dire. Mais quand même, il n'y a pas eu de décision unilatérale de l'ARS. L'ARS n'a fait que constater le manque de médecins. Il y a une question de sécurité. Ça, vous en êtes d'accord qu'il y a un problème de sécurité, que faute de médecins, le service des urgences doit fermer.
Mais aujourd'hui, on est au pied du mur parce que cela fait des années que les gouvernements successifs, de droite comme de gauche, et celui d'Emmanuel Macron, n'ont pas pris la mesure de l'importance de la formation des médecins.
Et le numerus clausus aussi. Qui...
Et le numerus clausus. Alors, le numerus clausus a été débloqué, donc on devrait voir les effets d'ici 5 à 6 ans. Oui. Mais d'ici là, comment vont faire les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite et l'ensemble de la population pour se soigner? On a des gouvernements qui avaient une vision à courte vue et qui n'ont pas anticipé.
Bah, tout de même,
et ce manque d'anticipation, on le paye aujourd'hui, aussi ce manque de courage politique. Parce qu'il faut savoir que les Français mettent de l'argent à travers leurs impôts pour la formation des médecins. C'est l'État qui paye la formation des étudiants en médecine. En moyenne, ça coûte à l'État 200 000 euros pour former un médecin. Ce n'est pas neutre. Et donc moi je considère que derrière cet effort fait par la collectivité, il faut qu'il y ait un retour quelque part sur investissement et que l'on exige de ces jeunes qui sortent des écoles de médecine de faire pendant, je sais pas, 5, 6 ou 7 ans, avoir la durée avec les législateurs et les professionnels de santé, de pratiquer sur des zones carencées pendant 5 à 6 ou 7 années, dans le cadre de ce qu'on appelle un service national sanitaire.
Mmh. C'était une proposition qui a été effectivement que beaucoup d'élus...
Mais pour cela, il faut avoir du courage politique et ne pas peur d'avoir à affronter les réflexes corporatistes d'une profession qui, malheureusement, aujourd'hui, évolue vers une philosophie qui est plus... de la rentabilité que du service à la population et s'éloigne malheureusement du serment d'Hippocrate.
Alors le constat, vous le partagez avec beaucoup de vos collègues, que faut-il faire? Quelle est la solution finalement pour que les urgences de Moissac continuent à exercer leur mission?
Il faut qu'il y ait une solidarité territoriale qui se mette en place avec l'hôpital de Montauban. Mmh. On parle du groupement hospitalier de territoire, des équipes territorialisées, on en voit aujourd'hui la limite, puisque l'hôpital de Montauban est lui-même saturé. Il faudrait aussi qu'il y ait une solidarité territoriale qui se mette en place avec les cliniques. Nous avons des cliniques sur Montauban. Et puis,
vous les avez appelées, vous avez pris contact avec ces structures, l'hôpital de Montauban, les cliniques?
Alors, c'est, à ma connaissance, ça n'a pas été encore fait, mais ça doit être fait, je le pense. Également aussi, il faudrait que les autorités de l'État puissent, si le besoin s'en ressent, et c'est le cas aujourd'hui, réquisitionner des médecins généralistes ou réquisitionner des intérimaires. Mais au-delà de ça, on est sur de l'urgence aujourd'hui. Mais l'urgence ne permet que de mettre un emplâtre sur une chambre de bois. En réalité, c'est un véritable problème structurel, plus que conjoncturel, et ça nécessite des efforts financiers colossaux de la part de l'État, notamment dans la formation des médecins. Et puis aussi, très clairement, la population, elle aura la possibilité de s'exprimer en avril prochain, il y a des élections présidentielles, doit prendre le bulletin de vote, parce que c'est par les élections, la démocratie, que l'on peut changer aussi ce paradigme et améliorer l'accès aux soins de la population.
On va aborder ce chapitre-là dans une seconde partie. Romain Lapesse, restons à nouveau sur l'hôpital. La région, vous avez dû le voir, la région se penche sur l'hôpital de Moissac et a proposé son aide avec un déblocage de crédit exceptionnel.
Il était temps.
La mise en synergie avec les équipes de médecine de la région toulousaine. Est-ce que ça, c'est vous qui les avez appelés? C'est vous qui avez appelé Carole Delga pour...
Carole Delga, malheureusement, n'interagit pas avec les élus lorsqu'ils n'ont pas sa couleur politique.
La preuve que si, quand même.
Avec les élus, je parle. Avec les
D'accord.
élus. Dissocié élus et personnel. Après, oui, on peut se féliciter de cette décision du Conseil régional Occitanie.
Plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'euros.
Je rappelle, on n'a pas encore les chiffres exacts. Je rappelle que d'autres régions, notamment Laurent Wauquiez, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, a fait la même chose avant Carole Delga. Donc, moi, j'ai interpellé Carole Delga sur les réseaux sociaux, puisqu'elle était restée totalement silencieuse sur cette question. Il s'avère qu'après mon interpellation, elle a réagi, elle s'est alignée un peu sur ce qu'a fait Laurent Wauquiez dans sa région. Je m'en félicite. Mais malheureusement, est-ce que ce sera suffisant? Je ne le pense pas. C'est un plus, effectivement. C'est un plus parce que ça permettra de participer à la rénovation aussi de l'hôpital qui en a besoin. Hein. Un hôpital qui est vieillissant, un hôpital qui a du matériel obsolète. Donc, les efforts de la région, les efforts financiers de la région s'inscrivent un peu dans le Ségur de la santé. Mais en réalité, on peut rénover un hôpital, on peut mettre de l'argent. c'est bien, mais si on ne forme pas des médecins, ça ne servira à rien. Des belles structures vides, ça ne servira à rien. Par contre, là où je note la position de la région et qui me rassure, c'est que Carole Delga s'est engagée à soutenir l'ouverture de maisons de santé. Son vice-président a parlé d'une maison de santé par semaine ouvrir en Occitanie. Alors, il y en aura.
Il y en aura une
à Moissac, en tous les cas. Nous travaillons pour cela depuis maintenant plusieurs mois. C'est un projet qui est en gestation depuis plusieurs années, mais qui, pour des raisons politiques, n'avait pas vu le jour.
Il
y a l'association MSP 82 avec une cinquantaine de professionnels de santé qui est mobilisée pour la création d'une structure qui accueillera ces professionnels de santé. C'est des médecins généralistes, c'est des kinés, c'est des infirmiers, etc. Il y a peut-être aussi des acteurs privés qui pourraient rejoindre cette maison de santé. Donc nous travaillons cela avec l'intercommunalité. La municipalité de Moissac que je représente...
N'est-ce pas là, finalement, la solution ? Le travail en synergie avec les collectivités.
Tout à fait.
Quelle que soit la sensibilité politique.
Mais évidemment, je veux dire, quand on est malade, quand on arrive... à l'hôpital et aux urgences, on ne trie pas les patients en fonction qu'ils soient de gauche, de droite, du centre ou d'ailleurs. Donc moi, je me réjouis de voir que l'intercommunalité que j'ai sollicitée, que j'ai interpellée pour créer cette maison de santé à Moissac, dans l'ancien EHPAD d'ailleurs de Moissac, l'intercommunalité dont je suis le vice-président a pris conscience de l'importance de cet enjeu. Je vois que la région aujourd'hui nous rejoint, le département également. Donc nous aurons les fonds suffisants pour monter cette maison de santé sous les 2 ou 3 ans. L'intercommunalité s'est engagée à l'inscrire au plan pluriannuel d'investissement sur le mandat dès l'année 2022. Donc c'est un projet que nous menons de front avec l'ensemble des collectivités, des partenaires de santé. Et j'ai bon espoir que sous 2-3 ans, elle puisse voir le jour. Je suis optimiste.
Sur l'hôpital, pour conclure, la décision elle est irrévocable au 1er décembre, fermeture des urgences de Moissac.
De ce que les autorités nous ont dit, cela semble être le cas. Mais il faut continuer de se battre. Il ne faut pas perdre espoir. Et moi, je l'ai très clairement dit au sous-préfet et au directeur départemental de l'ARS en réunion il y a quelques jours. Si jamais il y a des patients qui voient leur état de santé s'aggraver lorsqu'ils seront transférés de Moissac ou de communes rurales alentour jusqu'à Montauban, nous porterons plainte contre les services de l'État pour non-assistance à personne en danger.
Et il y a le 15 et le 18 qui fonctionnent, il faut le rappeler aux auditeurs. Le 15 et le 18 fonctionneront, quoi qu'il arrive, avec une ligne dédiée spécifique.
Certes, mais s'il faut plus de 30 à 45 minutes pour se rendre aux urgences de Montauban, qui sera en plus saturé, puisqu'il y aura un report d'un bassin de 85 000 habitants sur les urgences de Montauban, il peut y avoir le 15 ou le 18, mais la problématique reste la même.
Romain Lepès, je vous propose de marquer une courte pause et on se retrouve tout de suite après.
À Moissac, Castelsarrasin et Saint-Nicolas-de-la-Grave, vous écoutez CFM Montauban.
Le festival Un week-end avec elle revient le 26, 27, 28 novembre pour sa 14e édition à Cap Découverte. Retrouvez Angélique Kidjo, Isolde, Poupy, Samélie et plein d'autres artistes pour 3 jours de festivités. Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable à la programmation féminine qui mélange concerts gratuits et payants en journée comme en soirée. Un week-end avec elle, les 26, 27, 28 novembre à Cap Découverte. Informations et réservations sur unweekendavecelle.net et dans les points de vente habituels.
Vous avez entre 11 et 30 ans. Besoin d'un coup de pouce pour réaliser une idée, un projet? La bourse IDJ, un dispositif qui encourage les projets dans les domaines de la citoyenneté, l'environnement, la culture, le sport, la science, la solidarité, l'international. Présentez votre projet devant le jury et obtenez jusqu'à 1000 euros. Téléchargez et complétez le dossier sur le site sij-montauban.fr. Venez en parler au service information jeunesse de Montauban ou au PIJ de votre commune. La bourse IDJ est un dispositif porté par la CAF, la DSDEN, la MSA et le GMCA.
Du 15 au 28 novembre, 31e festival littéraire Lettres d'automne. À Montauban et en Tarn-et-Garonne, 150 rendez-vous autour de l'univers de l'écrivain mélomane Mathias Hénard et d'un thème croisant littérature et musique. Au programme, pour tous les publics, rencontres avec des écrivains, lectures en scène, spectacles, concerts, sans oublier les rendez-vous à partager en famille. Du 15 au 28 novembre, 2 semaines, tout en mélodie et variation, pour fêter le livre et la lecture. Programme et réservation sur lettresdautonne.org.
CFM à Castelsarrasin. Castelsarrasin. 90.7. 90.7.
Et on retrouve Kader Youb pour Politiquement Votre avec Romain Lepès.
Oui, avec Romain Lepès, maire de Moissac et conseiller départemental et vice-président de Terre de Confluence. Romain Lepès, est-ce que les relations au sein du conseil municipal se sont aplanies? On se souvient que le groupe d'opposition avait quitté le conseil, vous accusant de ne pas supporter, je cite, ni la contradiction, ni le débat, et de ne pas respecter les règles les plus élémentaires de la démocratie. Est-ce que les choses sont rentrées, si je puis dire, dans l'ordre de la bienséance?
Ils avaient voulu faire le buzz pour exister, puisque tous les fantasmes qu'ils ont développés durant les élections municipales, à savoir une ville qui serait ostracisée par le reste du département et de la région, on voit que ça n'est pas le cas. Une ville où il y aurait une atmosphère délétère, une chasse aux étrangers, on voit que ça n'est pas le cas. Et pour preuve, les Moissaguais nous ont élus au conseil départemental avec ma binôme et adjointe au commerce Annie Delcher de manière sans appel, hein, avec 62% au premier tour sur Moissac et 66% au second. Donc ils ont besoin d'exister, ils ont fait ce coup d'éclat-là. Après, pour montrer que ce qu'ils disent est totalement erroné, j'engage les Moissaguais et tous ceux qui s'intéressent à la vie de la commune de Moissac, à la vie institutionnelle de la commune de Moissac, à lire les comptes rendus des débats, et vous verrez qu'ils ont très largement la parole. J'engage aussi les gens à aller voir les vidéos, puisque nous filmons désormais le conseil municipal et c'est retranscrit sur les réseaux de la ville, à aller voir les débats, et tout le monde s'apercevra que ils ne sont absolument pas muselés. Nous avons d'ailleurs maintenu et créé de nouvelles commissions pour, alors que ce sont des commissions facultatives, pour associer justement les élus de l'opposition, et malheureusement, je constate qu'ils ne viennent pas souvent aux commissions. Mais après, effectivement, ils ont la plénitude pour s'exprimer, ils ont le magazine municipal, ils ont tous les supports pour cela, ils peuvent bénéficier de salles municipales. Donc voilà, là-dessus, je veux dire, c'est un peu fort de café, mais je comprends, ils sont dans leur rôle d'opposants. Et donc, ils s'opposent et ils essaient de créer des petites polémiques. Mais ça, c'est normal.
Romain Lepès, vous êtes un jeune élu. Hein, si je peux pas, tout le monde le sait. Vous êtes un des plus jeunes élus du département. Pensiez-vous que diriger une collectivité comme la mairie de Moissac serait aussi difficile lorsque vous avez décidé d'y aller?
Je me doutais que ça allait être chronophage. Autant que cela, non, parce qu'être maire, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, si on ne se donne pas de limites. Je savais que les défis allaient être très relevés au regard du contexte socio-économique et sécuritaire de la commune. Moissac était une ville en souffrance, une ville où la précarité est importante, où les incivilités étaient importantes, une ville qui a toujours été marginalisée au sein du département, et qui a toujours été un peu la bonne poire pour toutes les autres communes. Donc nous souhaitions justement, par notre élection, permettre aux Moissaguais d'être à nouveau fiers de leur ville et d'être fiers d'être Moissaguais.
Après un an, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir changé quelque part l'image de Moissac, l'image que les gens ont de Moissac?
Alors, quand on écoute la population, quand on écoute aussi ce qu'il se dit autour de Moissac et dans le département, il y a une satisfaction sur notre action. Et ça a d'ailleurs été corroboré par les résultats très satisfaisants pour nous aux élections départementales. Il y a du progrès. Effectivement, il y a du progrès sur les incivilités. Nos services le constatent, la population le constate. Tout ce qui était dépôt de déchets, tapage nocturne, ont largement diminué. Il faut dire qu'on a renforcé aussi notre politique de sécurité avec ce que j'appelle la tolérance zéro. On a multiplié par près de 4 les contraventions pour dépôt de déchets. On a recruté un policier municipal supplémentaire. On a assermenté des agents municipaux pour pouvoir fouiller les poubelles et dresser des contraventions. L'été, où il y avait des tapages nocturnes, nous avons élargi le temps de présence de la police municipale jusqu'à 1h du matin certains jours. Nous avons renforcé la collaboration avec la gendarmerie sur des patrouilles mixtes. Donc, sur la sécurité, il y a de réels progrès. Pareil sur la dynamique de la commune. La dynamique du centre-ville, puisque nous avons quand même une vacance commerciale qui est passée de 28% à 19%. Et nous avons de nouveaux porteurs de projets qui vont s'installer dans la commune prochainement, en centre-ville mais aussi en périphérie. Nous avons des friches industrielles qui ont été reprises ces derniers mois. Il y a une augmentation aussi des permis de construire. Donc il y a une véritable dynamique autour de la commune de Moissac. Et on doit entretenir cette dynamique-là et on doit la renforcer.
Est-ce que vous serez un maire bâtisseur? Est-ce que vous avez des projets en tête de bâtiments, d'infrastructures que vous souhaiteriez créer, mettre en œuvre à Moissac?
Alors déjà, il faut réparer Ce qui a été un peu délaissé ces dernières années, notamment la voirie, qui est en véritable souffrance, et la voirie est peu subventionnée, donc ça coûte de l'argent à la commune. Nous allons aménager des espaces urbains, notamment sur les berges, sur le quartier de Montebello. Nous avons entamé des travaux dans les écoles, notamment l'école La Mégère, qui va être agrandie. Nous avons le projet Maison de Santé, qui n'est pas anecdotique, loin de là, bâtir une maison de santé en collaboration avec l'intercommunalité. Nous avons des projets de réfection aussi autour du patrimoine, le cloître,
est-ce que vous aurez...
avec un projet de 5 600 000 euros qui va, pluriannuel, qui va débuter dès l'année prochaine et aussi autour du tribunal.
On a quand même la DRAC va vous aider, le ministère de la Culture
va vous aider. La DRAC nous aide largement sur le financement de la sauvegarde du cloître. Et également, il y a le tribunal qui est depuis 20 ans devenu une verrue, malheureusement, au cœur de ville. Et nous avons, en quelques mois, réussi à monter un dossier avec notre adjointe à la culture, Sophie Lopez, qui nous a rendu éligible et lauréat, plutôt même,
de la
mission Stéphane Bern. Nous allons bénéficier de fonds grâce à la mission de Stéphane Bern pour sauvegarder le tribunal. Et vous l'avez dit également, ce qui contredit clairement les oppositions à Moissac, nous sommes partenaires de l'État et de l'intercommunalité dans le cadre de Petite Ville de Demain, qui va nous permettre d'avoir de l'aide à l'ingénierie, d'avoir des financements supplémentaires pour le maintien de services publics, pour la rénovation de logements. Donc Moissac est pleinement dans une dynamique de renouveau.
Quelles sont vos relations avec les autres collectivités ?
Écoutez, avec le département, cela se passe très bien. Nous siégeons dans l'opposition départementale. Il y a des débats vifs de temps en temps. Ça fait du bien. La démocratie départementale en a bien besoin, puisque nous avons quand même, depuis plusieurs décennies, été habitués à une chape de plomb dans ce département. Les débats sont quand même relativement muselés.
Beaucoup d'élus du département n'avaient pas caché leur inquiétude au moment de votre victoire. Est-ce que, finalement, aujourd'hui, on peut dire que les relations se sont apaisées, notamment avec Jean-Philippe Béziers à Cassel?
C'est sur le département, je vous dis, nous sommes associés aux commissions. Nous représentons d'ailleurs le président du conseil départemental, qui n'est pas sectaire, nous a donné quitus pour représenter le département dans les conseils d'administration du collège et du collège. Nous déposons aussi la gerbe au nom du conseil départemental sur les cérémonies de notre canton. Donc, je veux dire, il n'y a aucun problème. Et évidemment, l'intercommunalité, j'en suis vice-président. Le groupe des élus de la majorité Retour à Moissac est le premier groupe d'élus au sein de l'intercommunalité. Donc nous travaillons tous en bonne intelligence, pour le bien de nos administrés.
Romain Lepez, comment imaginez-vous Moissac dans 10 ans ?
J'imagine un Moissac dynamique, rayonnant, avec une poussée démographique. Un Moissac où tous les quartiers interagissent ensemble. Un Moissac où le communautarisme culturel n'existera plus. Où il y aura un véritable brassage entre tous les quartiers. Un Moissac où il y aura beaucoup d'entreprises, où il y aura beaucoup de commerces. Et un Moissac qui verra de nouvelles offres poindre en matière touristique, culturelle. Et ça, nous le débutons depuis un an. Et notamment sur les familles. J'ai pas eu l'occasion d'en parler tout à l'heure. Une ville est attractive parce qu'elle attire des familles. Et pour attirer des familles, il faut des services. Donc, dès 2023, nous allons quasiment doubler le nombre de places en crèche. Ce qui est quand même un effort considérable, mais nécessaire pour assurer l'attractivité de notre commune.
Romain Lepez, on change de sujet. Hier après-midi, il y a eu ce naufrage dans une petite embarcation de migrants qui tentait de rejoindre les côtes anglaises depuis le littoral français. Drame sans précédent qui a fait au moins 27 personnes, qui a tué au
dont
moins
une femme enceinte.
Dont 7 femmes, une femme enceinte et 3 jeunes sont morts noyés dans la Manche. Un tel bilan était inédit. Quelle est votre réaction, j'allais dire, de citoyen, mais aussi d'élu?
Déjà, effectivement, face à ce drame, on ne peut être que touché parce qu'il y a des femmes et des enfants qui sont victimes de cela, qui sont victimes de passeurs sans foi ni loi, qui utilisent la misère humaine. Il faut savoir qu'à peu près un passeur rackette ces personnes à hauteur de 2 500 euros par tête.
Que faut-il faire, selon vous, pour contrecarrer ce trafic Alors, qu'est-ce qu'il faut faire?
Il y a l'amont et l'aval. L'amont, c'est déjà aider les pays d'où viennent les demandeurs d'asile ou les migrants.
C'était l'Irak, Kurde, hein, c'est ça.
Voilà. Hein. Il faut les aider à se développer. Il faut aussi arrêter de faire de l'ingérence militaire, notamment, je pense, aux États-Unis, qui ont déstabilisé clairement ces régions, puisque beaucoup de ces migrants viennent du Moyen-Orient. Donc les États-Unis, là-dessus, ont une véritable responsabilité. Je veux dire, ils ont fait beaucoup de mal à ces pays, ils ont déstructuré. Et aujourd'hui, de par leur politique interventionnistes et pseudo-humanitaristes, ils ont créé des flots migratoires considérables. Et puis ensuite, il y a l'aval. L'aval, c'est l'Europe. Et il faut que l'Europe ait une politique migratoire dure, mais juste, et qu'elle affirme des règles clairement déterminées vis-à-vis de ces pays, et qu'elle soit très ferme vis-à-vis de l'immigration clandestine, pour justement dire à ces pays, à ces populations, qu'on ne peut plus les accueillir parce qu'on n'a pas assez de travail, parce qu'on a un contexte socio-économique aussi difficile. Effectivement, il faut conserver le droit d'asile, mais il ne faut pas le dévoyer, parce que le droit d'asile, c'est l'honneur de la France, c'est l'honneur de l'Union européenne, mais il ne faut pas non plus dévoyer, ce qui est le cas aujourd'hui. L'asile est devenu une filière d'immigration économique, et ça, on ne peut que le regretter. Donc il faut que l'Union européenne et la France retrouvent aussi la maîtrise de leurs frontières, ce qui n'est plus le cas avec l'espace Schengen.
Romain Lopez, en moins de 6 mois auront lieu 2 échéances électorales très très importantes pour l'avenir de notre pays, la présidentielle et législative. Est-ce que vous soutenez pleinement Marine Le Pen dans sa quête de victoire ?
Et quand on regarde aujourd'hui le paysage politique actuel, Marine Le Pen porte une espérance à travers ce que j'appelle un patriotisme positif, rassembleur de tous les Français, au-delà de leurs origines de leur, ou de leur confession. Elle a une dynamique importante dans les sondages, même s'il faut être prudent sur les sondages, évidemment. On n'est qu'à 6 mois des élections présidentielles. Les Français auront véritablement la tête à ces élections à partir du mois de février. Mais force est de constater que les propositions de Marine Le Pen sont aujourd'hui reprises par bon nombre de candidats ou de prétendants à la candidature comme Éric Zemmour et comme les et comme l'ensemble des candidats à la primaire des Républicains.
Vous évoquez Romain Lopez, Éric Zemmour sur la question de la souveraineté. Il concurrence pleinement votre parti et Marine Le Pen. Est-ce que vous n'avez pas peur finalement qu'il vous prenne des voix s'il, d'aventure, il se présentait à l'élection présidentielle.
Le souverainisme.
Et qui vous empêche finalement de triompher.
Alors, le souverainisme est une notion qui transcende les courants politiques et les partis politiques. Vous avez des souverainistes au Rassemblement national, vous avez des souverainistes chez les Républicains, vous avez des souverainistes aussi à gauche avec Arnaud Montebourg. Donc, Éric Zemmour n'est pas plus concurrent qu'eux sur, vis-à-vis de Marine Le Pen.
Il nous reste très peu de temps, Romain Lopez. C'est quasiment terminé, nous dit Rémi.
Ça passe trop vite.
Oui, ça passe très vite. Les élections législatives, est-ce que vous y pensez ? Est-ce que vous vous présenterez sous la bannière Rassemblement National aux élections législatives de l'an prochain ?
Sylvia Pinel doit être battue à ces élections législatives. Le territoire mérite d'avoir des députés, un député qui soit actif, un député qui soit mobilisé, et un député qui aborde le territoire sans sectarisme, ce qui n'est pas le cas de Sylvie Lépine, qui sert toujours à...
Ça pourrait être vous, pour le Lépine.
Écoutez, je veux dire, moi, aujourd'hui, les Français, non mais les Français, ils ont, les Français, les Tarn-et-Garonnais, ils n'ont pas la tête aux élections législatives, ils n'ont même pas la tête aux élections présidentielles. Donc, imaginez-vous, les élections législatives, on n'y est pas encore loin de là. Mais en tous les cas, Sylvia Pinel doit être battue, et j'espère qu'elle le sera.
Vous reviendrez pour nous le dire. Merci beaucoup, Romain Lopez, d'avoir accepté l'invitation de CFM Radio.
Merci à vous.